Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous. Donc, je suis de nouveau avec Alain. Nous avons les excuses de Brigitte qui, d'après ce que tu as dit Alain...
Eh oui, Brigitte est souffrante. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Ben, on est de tout cœur avec elle, qu'elle se soigne. C'est pas bien grave. C'est la gastro qui est passée par là. Donc Brigitte, bon rétablissement. Et puis on va assumer l'émission tous les deux avec Gérard.
Ok, bon, nous avons commencé déjà avec un petit peu de retard à souhaiter à tous nos auditeurs nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année et qu'elle se passe très bien. Tu as un petit mot à dire
Oui, un petit mot. On n'est pas en retard, Gérard, puisque tu sais que dans le protocole des mairies, les maires ont tout le mois de janvier pour présenter donc les voeux. Il y en a encore qui les ont programmés en fin de mois. Donc, mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de réussite à tous nos auditeurs.
Bon, nous allons commencer cette émission un petit peu différemment cette fois-ci, parce que bon, vous savez tous qu'il y a les élections qui vont se dérouler le 15 et le 22 mars 2020, et qu'on ne peut pas trop parler de politique, mais nous allons parler un petit peu des aspects techniques de cette élection, parce que beaucoup d'éditeurs sont un petit peu perdus. Donc on va déjà parler des communes de moins de 1000 habitants, parce que par rapport à ça, il y a des choses qui n'ont pas trop changé.
Alors on va en parler, mais avant toute chose, je voudrais quand même, c'est le moment, puisqu'on est en période de vœux, c'est vrai, mais aussi, on ne l'a pas dit, et il faut quand même retenir une chose certaine, c'est remercier le conseil d'administration de Radio Locale Périgord. C'est quand même assez nouveau d'avoir une émission pour les élus et pour les petits élus que nous sommes. Donc un grand remerciement au conseil d'administration et à sa directrice. Alors pour démarrer donc sur les communes de moins de 1000 habitants, c'est vrai que notre engagement cette année des maires ruraux au niveau national, le thème c'était « Engagez-vous ». Et c'est vrai que quelque part, ces élections vont avoir une importance vraiment capitale, surtout pour les mairies rurales, puisque après toutes les attaques des divers gouvernements, alors ça ne date pas d'hier, ces communes rurales sont menacées, et particulièrement les plus petites, en dessous de 100 habitants. Donc le thème, et on le répète, surtout aux jeunes, engagez-vous, allez-y, il y a de la place pour les conseillers municipaux, il y a de la place pour être maire, mais il faut absolument que nous ayons ce rôle et que nous continuions à sauvegarder cette ruralité.
Bon, tu me disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 150 maires qui ne se représentent pas, donc on est bien dans cette situation. Je vais te poser des questions parce qu'on va marcher oui. Comme ça. Si dans une commune, il n'y a pas de liste pour ces élections,
alors,
comment ça se passe?
C'est là que c'est dramatique, parce que c'est la loi et c'est l'État qui reprend la main. Ça veut dire que, imaginons qu'une commune n'ait plus de maire, c'est-à-dire un maire qui ne se représente pas et qu'il n'y ait pas de candidat à cette représentation. Immédiatement, la commune est rattachée à la commune voisine, donc c'est une fusion de communes et la commune et n'existe plus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc il faut absolument qu'il y ait des conseils municipaux partout.
Donc tu te relances un appel à la population de s'engager pour déjà garder leur commune. Donc pour construire une liste pour ces élections, il faut combien de conseillers
alors,
ça se fait par nombre d'habitants, je suppose.
Alors, justement, on est dans la pédagogie un petit peu de cette élection, et c'est vrai que quelque part, bon, donc il faut distinguer plusieurs communes. Il y a les communes, et il y en a de moins de 100 habitants où il faut élire 7 conseillers municipaux. Les communes de entre 100 et 500, il faut en élire 11. Et après, au-delà, entre 100 et 1000, il faut élire 11 conseillers. Et au-delà, c'est à la liste majoritaire, c'est-à-dire il faut faire des listes pour les élections. Alors, je me répète, parce que je crois que les auditeurs m'ont pas bien compris, de 0 à 107 conseillers municipaux, de 100 à 500 11 conseillers municipaux et de 500 et au-delà de 1000, c'est par des listes. Non, de 500 à 1000, excusez-moi, c'est 15 conseillers municipaux. Je vais y arriver.
Et au-delà, c'est par.
C'est au-delà, c'est à scrutin majoritaire. À liste majoritaire.
Donc, sur les petites communes, il faut 7. Est-ce qu'il faut de la parité? Est-ce qu'on peut panacher?
Dans les communes moins de 1000 habitants, c'est là que je faisais un petit peu que j'avais un doute, mais là, ça y est, c'est revenu. Donc, la parité n'existe que dans les communes de plus de 1000 habitants, c'est-à-dire que les communes de moins de 100, de 100 à 500 et de 500 à 1000, la parité n'existe pas.
Et est-ce qu'on peut panacher s'il y a plusieurs listes?
Bien sûr qu'on peut panacher s'il y a plusieurs listes. Et de toute façon, dans le résultat, ce sont donc bien sûr s'il y a 2, 3, 4 listes, ce sont là où il faut 11 conseillers, c'est les 11 premiers. Là où il faut 7 conseillers, c'est les 7 premiers arrivés en tête. Et puis donc, avec la possibilité, le week-end d'après les élections, de réunir ces conseils municipaux et d'élire leur maire et leurs adjoints.
D'accord. Donc, on a bien répété les choses. Donc, s'il n'y a pas de liste, on intègre la commune d'à côté. Et dans les moins de 1000 habitants, pour être plus simple, on peut avoir deux listes et panacher, c'est-à-dire rayer des noms.
Exactement.
Et c'est les 11 qui ont eu le meilleur résultat qui sont élus.
Exactement. Ça veut dire que si les sortants n'ont pas bien travaillé, on peut les rayer.
Donc, on va continuer. Donc, pour les villes de plus de 1000 habitants, donc là, c'est un scrutin de liste.
C'est un scrutin de liste. Donc, il y a bien sûr une tête de liste. Donc, souvent, c'est le maire sortant qui fait une liste. Donc, il y a des listes opposées ou opposables. Et c'est le scrutin majoritaire qui l'emporte.
Donc là, dans ces listes-là, il y a la parité.
Là, c'est une obligation. Il y a la parité, un homme, une femme.
Là, si on raye un nom, la liste est-elle valable?
Si on raye un nom, la liste.
Elle doit être annulée, a priori.
Si. Je pense que.
Elle est annulée.
La liste est annulée, oui. Donc c'est le scrutin majoritaire.
On vote pour la liste complète.
On vote pour une liste complète.
C'est-à-dire que si on raye une, deux, trois personnes. La liste est considérée, considérée
comme nulle. Disons que le bulletin est considéré comme nul. C'est pas la liste, c'est le bulletin. Voilà, c'est le bulletin qui est considéré comme nul.
Donc, il faut que ça soit clair pour les auditeurs. C'est pas évident déjà pour nous.
Ça n'est pas pour nous, surtout que les communes au-dessus de 3000 habitants, ça nous est un peu plus inconnu que les communes rurales, puisque nous sommes des ruraux. Et on connaît mieux le système rural que le système de la grande ville.
Donc, pour nos auditeurs, les choses doivent être claires. Donc, la moindre rayure d'une personne annule le bulletin. Il ne peut pas y avoir de panachage.
Tout à fait.
Donc là aussi, une petite modification par rapport aux villes de plus de 1000 habitants. C'est ce qu'ils appellent le fléchage, c'est-à-dire pour les conseillers communautaires. C'est-à-dire que là aussi, il y a des obligations, si mes souvenirs sont bons, que les délégués communautaires, alors c'est un, moins c'est deux, trois, quatre ou
alors,
cinq.
Justement, sur le PCI, donc l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire autrement dit communauté de communes ou communauté d'agglos, les délégués sont désignés, donc pour les communes de moins de 1000 habitants sont désignés, c'est automatiquement le maire qui est désigné et le premier adjoint en cas de défaillance du maire. Donc c'est pour ça que je me bats, moi, pour la gouvernance de ces EPCI, mais on va y revenir tout à l'heure, Gérard. Mais pour les autres villes, c'est sûr, ce sont les trois premiers sur la liste qui sont automatiquement les deux, trois premiers, quatre premiers, suivant le nombre d'habitants, qui sont désignés pour siéger au conseil communautaire.
Sachant que dans ces cas-là, il peut y avoir aussi une répartition entre les différentes listes.
Exactement.
On est d'accord.
Oui, toujours pareil.
Donc on revient un petit peu sur les questions, parce qu'il y en a plein qui se posent et c'est pas toujours...
Alors moi, je vais revenir, Gérard, si tu veux bien. D'abord, Parce que c'est dans l'ordre des choses. La nouvelle définition pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est que c'est une nouveauté. Avant, on envoyait la liste des 11, des 5, des 7, des 11 ou des 15 conseillers. On envoyait la liste à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elle était retenue aujourd'hui. Il y a une déclaration CERFA, c'est-à-dire un papier officiel. Et il faut faire, chaque candidat doit faire sa déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires pour les communes de moins de 1000 habitants, pour en ce qui concerne les communes rurales. Ça, c'est la nouveauté.
Ah, c'est une contrainte supplémentaire.
Donc,
c'est-à-dire que de personnes qui... je prends une commune de 300 habitants, donc une personne qui s'est pas porté candidat, mais que les gens
veulent être candidats, s'ils n'ont pas fait cette déclaration, elle n'est pas retenue.
Elle n'est pas retenue,
Elle n'est pas retenue, sachant aussi, attention, il faut bien alerter, que pour cette élection et pour toutes les élections, il est bien évident que le candidat doit avoir une attache sur la commune, c'est-à-dire un terrain, une maison. S'il ne l'a pas, il ne peut pas être
candidat.
Exactement, qu'un candidat ne peut pas être candidat s'il est inéligible, c'est-à-dire s'il a été condamné par la loi à quoi que ce soit, il est inéligible, donc il ne peut pas se présenter. Le troisième point aussi qui me paraît important, c'est qu'on peut se présenter à partir de l'âge de 18 ans.
C'est important. De nouveau, quand tu disais aux jeunes de s'engager, ils peuvent le faire à partir de
18 ans.
De 18 ans, et c'est bien. Mais... un petit mot là sur l'engagement des maires. On reviendra peut-être sur des questions techniques, mais pour toi, tu es maire.
Oui.
Pourquoi tu te représentes ? Quel plaisir ?
Plaisir ou c'est pas un plaisir. C'est je vais appeler ça une vocation. Une vocation parce que d'abord c'est quelque chose de très motivant et de très enrichissant. Et puis, si on se représente dans une commune rurale, c'est surtout pour les habitants. Parce que je l'ai toujours dit, moi, dans une commune rurale, c'est plus une deuxième famille qu'un acte administratif. Donc on vit auprès des gens, et la proximité est l'élément premier qui fait qu'on se représente. Et moi, le premier, je me représente parce que j'ai le sentiment d'être soutenu par la population. Et ça, c'est un élément fondamental. Et je pense que le tiers des maires ne se représentent pas, c'est justement parce qu'ils ne ressentent plus cette envie de proximité, qu'ils n'ont plus la possibilité d'avoir cette proximité. Ça, ce n'est pas dû aux habitants, c'est dû à l'État.
Un petit point par rapport aussi des questions techniques. Bon, toi, tu es maire d'une toute petite commune, parce qu'on pourrait apparaître en disant... Vous, les maires, vous touchez beaucoup d'argent. Quel est le montant de votre indemnité ?
Alors, moi, je suis maire d'une commune de 350 habitants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de service, je n'ai qu'un agent de service, j'ai une secrétaire. C'est en tout et pour tout ce que j'ai en personnel. Je suis habilité à faire la police, je suis habilité à m'occuper du social, je suis habilité à m'occuper de la voirie, je suis habilité à faire le budget, je suis habilité à animer la commune, et j'en passe, il y en a beaucoup. Tout ça pour, entre 7 et 11 heures de travail par jour, et c'est rémunéré net 564 euros par mois.
Je crois qu'il faut vraiment avoir une envie de vocation pour être maire. On fait un petit point musical et puis on repart.
Eh bien, tout de suite.
Tout de suite.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc nous allons reprendre notre débat. Donc nous allons être un petit peu plus concrets. Nous allons parler un petit peu de la gouvernance des EPCI, parce que bon. Je voudrais qu'on dise un petit mot par rapport à ça, parce qu'au niveau des élections, on a oublié de parler d'une chose qui me paraît importante. C'est que l'élection du maire entraîne des choses importantes, entre autres l'élection des sénateurs. Et qu'il ne faut pas être neutre, donc c'est-à-dire que on vote sur des choses précises. Donc dans les petites communes, il y a le maire est obligatoirement grand électeur, mais dans les communes, ça peut être aussi des conseillers qui peuvent voter. Et donc, un petit mot par rapport à ça.
Alors oui, un petit mot, bien sûr, parce qu'au mois de septembre, nous avons les sénatoriales. Et donc, il est bien évident que le rôle du maire est important parce qu'il fait partie des grands électeurs. Vous savez que les sénatoriales, ce n'est pas la population qui vote, ce sont les grands électeurs, dont les maires font partie, et certains conseillers municipaux, puisque des communes au-delà de 1000 habitants peuvent avoir plusieurs conseiller municipal qui soit désigné pour aller voter pour les sénateurs. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que les sénateurs, ce sont ceux qui sont en principe habilités à défendre les collectivités territoriales. Et ça, ça va être aussi un sacré combat parce qu'on a besoin que les maires ruraux soient représentés au niveau du Sénat. Et donc, ils ont ce rôle-là et ce rôle-là, il ne faut pas le perdre. Mmh.
Donc c'était un petit point qui me paraissait important de signaler avant de parler des EPCI. Donc les EPCI, pour être plus simple, les communautés de communes. Donc chaque communauté, en fonction de sa grandeur, a un certain nombre de délégués. Et on a vu que dernièrement, notre préfet a demandé à un certain nombre de communautés de passer au règlement général et donc de perdre un certain nombre de délégués.
Alors, c'est un combat que je mène, moi, personnellement, depuis longtemps. J'en ai parlé à Jacqueline Gouraud, pas plus tard qu'il y a 15 jours, à Gênes, sur le débat de la nouvelle loi 3D qui va sortir. Et en aparté, bien sûr, je lui ai dit que la loi engagement et proximité... accoucher d'une souris. Alors je vois que les députés, sur leur réalisation à mi-mandat, ne parlent que d'engagement et proximité. Mais messieurs les parlementaires, vous avez saboté cette loi. Et donc il en est ressorti quelques petits avantages. Mais par rapport justement sur les projets, c'est-à-dire de donner plus de pouvoir et d'obliger à faire une conférence des maires, la seule différence, une conférence des maires, bien sûr, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglo. La seule différence, c'est qu'en conférence des maires, nous sommes, je vais prendre le cas de la CAB, dont je suis vice-président, la communauté d'agglo de Bergerac, nous sommes 38 mairies, donc 38 maires en conférence, le maire de la ville centre, qui est Bergerac, n'a qu'une voix. Mais quand on repart après dans les voies délibératives, c'est-à-dire le conseil communautaire, ça change de tournure parce que là, la ville de Bergerac représente 40% des voix. Et c'est celles-là qui sont importantes. Et donc, il faut revoir ça. Il faut que les communes rurales aient plus de pouvoir au sein de cette communauté de communes, cette communauté d'agglo. Souvent, la ville-centre. Et même, moi, j'irai plus loin, la loi devrait être faite dans le sens où le maire d'une ville-centre devrait avoir une très... Ça, c'est personnel, mais je le pense. Devrait avoir l'interdiction d'être, et d'une part, maire d'une ville-centre et en même temps président de la communauté d'agglo, de la communauté de communes.
Donc ça revient, moi je vois sur notre communauté, la CCIVS, nous on était 39 délégués aux dernières élections, là on est passé à 32. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gros sites sont plus représentés.
Mais
donc
c'est ça, le problème.
On va avoir encore plus de pouvoir
le problème,
au détriment des petites. Et là, on risque de se retrouver dans des situations plus difficiles pour certains.
Ben oui, il suffit que, même si ça ne représente que 40% d'un côté et 60% de l'autre, il est bien évident que les deux plus gros sont qu'à s'allier. Et ça supprime complètement le pouvoir au maire d'une commune qui est vraiment petite ou qui est d'une importance moindre, et ça, c'est pas normal. Moi, je pense que la loi engagement et proximité aurait dû, et ça devrait être dans la nouvelle Constitution, on devrait parler de territoire et non plus de population. C'est ça le principe. C'est de dire, il y a un territoire, il faut que le territoire soit aussi bien représenté dans le nord, le sud, le centre, l'est ou l'ouest, mais et non pas en fonction de la population qui est située dans la ville centre.
Donc tu as dit tout à l'heure, tu avais rencontré Madame Gouraud et vous avez parlé de la loi 3D. Tu peux nous dire un petit mot.
Mais cette nouvelle loi, elle va sortir. Là, ils sont en train d'y réfléchir, justement. 3D, pourquoi ? Ben, ça veut dire différenciation, décentralisation et diversification. Donc c'est 3D parce que ça faisait joli, certainement, dans la présentation. Mais en définitive, c'est très important parce que nous étions à Agen, des représentants des associations d'élus. Donc il y avait l'UDM, l'Union des maires pour la Dordogne, donc la MRF. Moi, j'étais le représentant des maires ruraux. Il y avait le préfet, il y avait les députés, il y en avait de chaque département de la Nouvelle-Aquitaine. La ministre a écouté. Et je pense que moi, j'ai retenu qu'il y a de bonnes idées des maires. Il y a de très, très bonnes idées des maires. Justement, moi, bien sûr, j'ai parlé de la gouvernance des EPCI. Mais par exemple, je vais prendre un sujet qui est important. C'est aujourd'hui, on se rend bien compte que l'État, au lieu de réinitialiser des services publics dans le monde rural, est en train de les supprimer à travers les maisons des services publics. Alors ils en font un grand dame de ces maisons des services publics, mais il faut voir ce qu'ils y mettent dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun représentant des services. C'est souvent des gens qui n'ont pas de formation, et je ne sais pas où ça va aller. Mais un maire, par exemple, je vais prendre l'exemple de la DGFiP. La DGFiP, au niveau des perceptions, pour simplifier, au niveau des perceptions, vous savez que toutes les perceptions vont être supprimées. Et aujourd'hui, le résultat, déjà, on le ressent, des retards de paiement se font au niveau des entreprises, au niveau des fournisseurs. Des communes, il y a des DGFIP, il y a des perceptions qui ont presque un mois de retard de paiement. Alors vous imaginez les entreprises qui attendent cet argent. Mais il y a un maire qui a eu une super idée, moi je trouve. Elle l'a noté, la ministre, mais bon, c'est pas pour ça que ça sera retenu. Mais il a proposé que les mairies aient un chéquier une sorte de chéquier, qui puissent faire des chèques à leur entreprise, à eux après, d'aller se faire payer directement par la perception. Moi, je trouve cette idée assez, assez originale et assez, assez simplifiée. Ça permettait d'éviter d'avoir sans arrêt des coups de fil de ces entreprises. Au moins, ça serait en direct avec les perceptions. Voilà.
C'est surtout ça, les maintiendrait les perceptions, parce que...
Alors, tout à fait. C'est pour ça, ça permettrait aussi de maintenir un certain nombre de personnes, étant donné que moi je l'ai vu quand il y a eu les actions là, dans les perceptions, et on se rend compte aujourd'hui, j'ai fait exprès moi d'aller l'autre jour, justement j'ai pris un rendez-vous personnel pour regarder un petit peu ma situation fiscale. Et bien sûr, je me suis rendu compte qu'il y avait la queue, il y avait des rendez-vous de prix, mais quelqu'un avait pris ma place. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de rendez-vous et que la personne qui est chargée de ça sur sa perception, ben elle était toute seule, alors que dans le temps, ils étaient 7 ou 8. Donc on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a des blocages.
Je vais revenir un petit peu sur le point. On disait tout à l'heure s'engager pour défendre nos communes. Alors c'est vrai que ça peut paraître difficile d'être maire. C'est pour ça que faut revenir un petit peu sur l'association des maires ruraux de France. Je crois que demain, si vous êtes élu, je crois qu'on peut le dire, n'hésitez pas à adhérer à l'association des maires ruraux pour qu'on puisse vous aider à construire un certain nombre de projets et vous aider dans les situations difficiles.
Forcément, et là, toutes les associations d'élus, c'est-à-dire que c'est aussi bien l'AMF, l'Association des maires de France, que la MRF dont on est ici présent, mais aussi les élus de la montagne, il y a tout un tas d'organismes qui peuvent aider, mais c'est surtout la première chose, il y aura des formations. Et il faut absolument former les nouveaux maires parce qu'ils vont tomber ils vont tomber de haut, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de choses à connaître, mais c'est une formation permanente, c'est très enrichissant. Moi je les invite à y aller parce qu'ils vont connaître beaucoup de choses et en plus ils seront aidés. Donc la loi engagement et proximité a accéléré ces choses-là puisqu'elle permet aussi aujourd'hui d'avoir la garde des enfants parce que avec la parité et puis avec des femmes qui s'engagent. Alors ça, c'est réjouissant. Il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans la politique et dans les mairies. Ça, c'est très réjouissant. Et c'est vrai que quelque part, la loi engagement et proximité fait qu'il y aura des aides pour les garder les enfants pendant les heures de travail des élus. C'est une des forces. J'espère qu'on va y arriver. Et puis, il y a bien sûr la formation.
Donc, on dit... aux futurs maires, mais aux anciens maires qui seront réélus, de ne pas hésiter à adhérer à l'association des maires ruraux de
France. Bien sûr, c'est vrai qu'en Dordogne, on a fait incroyable. La MRF n'était pas représentée, le fait qu'il y ait des difficultés, c'est vrai que l'Union des maires paraissait suffisante. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus sur les problèmes bien spécifiques de la ruralité. Nous, on est beaucoup plus en proximité des problèmes vraiment locaux. Et c'est vrai que l'un complète l'autre. Hein. Il n'est pas question de critiquer l'Union des maires, mais l'un complète l'autre. Mais c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on est 200 mairies. On arrive pratiquement à la moitié des maires de la Dordogne. Je n'arrive pas à comprendre certains maires qui ne veulent pas nous rejoindre pour ne pas faire doublon. Mais c'est tellement important. Et puis la cotisation est tellement faible par rapport à la commune. Ça serait bien de... Moi, je suis adhérent. De toute façon, je suis adhérent et je resterai adhérent à l'Union des maires parce qu'elle a toute son importance. Mais je resterai aussi adhérent à la MRF parce que je pense qu'elle apporte un plus.
Donc c'est important d'avoir au niveau des interlocuteurs quelqu'un qui connaisse bien les dossiers de la ruralité. Donc c'est le rôle
D'autant plus, je vais vous prendre un exemple, puisque ce soir nous avons une réunion de bureau au niveau de la MRF. On va discuter de la nouvelle charte demandée par les agriculteurs. Nous allons l'étudier, nous allons certainement l'amender parce qu'il y a quelques sujets délicats que nous avons entendus, puisque je faisais partie, il y avait l'Assemblée générale de l'Union des maires la semaine dernière, et c'est vrai que quelque part, moi j'ai proposé à Bernard Vaurillac, le président de l'Union des maires, de s'associer pour avoir une vision commune de cette charte de bon voisinage. Donc c'est important aussi que dans des moments collectif, on puisse se retrouver sur des idées qui soient communes.
Donc on va finir cette émission sur tes dernières paroles. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est s'engager aujourd'hui dans les communes et les communes rurales. Si vous voulez que ça bouge, voter, c'est bien. Et s'engager, c'est encore mieux. Donc participez, inscrivez-vous sur les listes électorales et sur les listes pour gérer vos mairies.
Mais c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est municipal. On ne le dirait pas, mais on va voter pour 500 000 élus bénévoles. 500 000 dans toute la France. Vous imaginez l'importance de cette élection. Il faut absolument les garder, ces 500 000 bénévoles.
Alain, je te remercie. Donc, je remercie tous les auditeurs. Et donc, au mois prochain pour une nouvelle émission.